c'est la chronique de Monique Kirouac. Monique, pourquoi apprendre à cuisiner est un outil de santé publique? Dans la conversation, on en parle et vous allez partager ce texte avec nous.
Oui, et Hélène, j'apprends que c'est la journée mondiale de l'alimentation.
Ben, coudonc, et que ça donne trop bien.
Alors, dans un monde dominé par les aliments ultra transformés et le manque de temps, grandir sans savoir cuisiner, semble-t-il, n'est pas rare. Mais cette perte de savoir-faire n'est pas neutre. Elle fragilise la santé, l'autonomie et même notre rapport collectif à l'alimentation. Alors, on peut se poser cette question, et si réapprendre à cuisiner devenait un choix de société?
Donc, réapprendre?
Réapprendre, oui, à cuisiner.
Comme
oui,
si on avait déjà appris?
Ben, il semblerait, peut-être. Okay. Peut-être que nos mamans, nos grands-mamans étaient plus à la cuisine.
Ah, ça, c'est sûr.
Alors, depuis quelques décennies, d'ailleurs, les repas faits maison ont été peu à peu remplacés par des plats prêts à manger et des produits très transformés. Alors là, j'ai été très étonnée, Hélène. Au Canada, plus de la moitié de ce que mangent les enfants et les adolescents vient de ces aliments ultra transformés. Mmh. Alors qu'on n'arrête pas de dire que c'est la cause de bien des maux, oui, ouais. C'est ça. Alors, cette tendance a des effets directs sur la santé. Bon, comme on vient de l'énoncer, plus de maladies chroniques, comme le diabète de type 2, dont on a parlé justement la semaine dernière, et une perte d'autonomie alimentaire. Parce que cuisiner, c'est parfois vu comme une option et non pas comme une compétence de base. Alors, dans ce contexte, apprendre à cuisiner dès l'enfance n'est pas seulement un plaisir ou une tradition familiale, c'est un véritable outil de santé publique. Cuisiner aide à mieux comprendre comment faire des choix alimentaires pour soi et pour la planète, à prévenir certaines maladies et à développer une relation positive et durable avec la nourriture. En lisant l'article, Hélène, je me suis dit que, bon, on parle de la petite enfance, là, mais peut-être que certains adultes auraient avantage à peut-être se repencher sur cette activité qui est celle de cuisiner.
Oui, c'est bon pour tous âges. Tout âge.
Oui, exactement. En tant que nutritionniste et chercheuse en nutrition, mesdames Eva et Perrault, qui sont les auteurs de l'article, s'intéressent à la littératie alimentaire chez les adolescents et considèrent ce sujet d'autant plus d'actualité face aux défis alimentaires contemporains. Alors, apprendre à cuisiner tôt ne se limite pas à acquérir une habileté pratique. C'est une porte d'entrée vers la littératie alimentaire, c'est-à-dire un ensemble de connaissances, de compétences et d'attitudes qui permettent de bien se repérer dans un monde alimentaire de plus en plus complexe. Elle développe aussi l'autonomie, la confiance et la motivation pour faire des choix qui favorisent la santé et le bien-être. La littératie alimentaire, c'est pas seulement être capable de préparer un repas nutritif, c'est aussi célébrer et transmettre nos traditions culinaires, soutenir des systèmes alimentaires plus justes et durables et développer une relation positive avec la nourriture. Alors, c'est très, très vaste. Il est important de rappeler, pour savoir cuisiner ne suffit pas tout seul. La cuisine, c'est un élément central, mais la littératie alimentaire est beaucoup plus large. Alors, comme le soulignent les chercheuses Hélène Anna Wittgen et Daniel Kolegos de la Queen's University of Technology en Australie, elles regroupent un ensemble de compétences liées entre elles. Alors, et là aussi, ça peut très, très bien s'adresser à nous, les adultes, planifier ses repas gérer un budget, réduire le gaspillage et choisir des aliments nutritifs, sécuritaires, malgré le marketing, préparer des repas de base et adopter une alimentation équilibrée et culturellement signifiante. Imaginons, Hélène, si la famille se regroupe pour procéder à toutes ces activités de planification et de gestion, ce serait formidable, en incluant les enfants, c'est ce qu'on comprend par cet article. Alors ainsi, cuisiner devient une porte d'entrée concrète vers plusieurs de ces dimensions. Quand un enfant met la main à la pâte, il n'apprend pas seulement des gestes techniques. Il apprend aussi à planifier, à s'organiser, à résoudre des problèmes réels, à réfléchir de façon critique à ce qu'il mange. Bien, ses compétences acquises, petit à petit, et adaptées à son âge, deviennent la base d'une autonomie alimentaire durable. Les recherches montrent que les enfants qui participent à la préparation des repas mangent une portion supplémentaire de fruits et de légumes et consomment généralement une alimentation de meilleure qualité que ceux qui ne cuisinent pas. Encore faut-il que les parents cuisinent dans ce même esprit. Les habitudes alimentaires acquises tôt ont tendance à rester à l'âge adulte. Initier les enfants à la cuisine, c'est donc poser la base de comportements qui protègent leur santé à long terme. Par exemple, le simple fait de cuisiner à la maison est lié à une alimentation moins riche en sucre ajouté et en gras saturé. Deux éléments, on le sait, directement liés aux maladies cardiovasculaires et encore une fois au diabète de type 2. Il faut reconnaître, par ailleurs, que tout le monde n'a pas le même accès à la cuisine et aux compétences culinaires. Certaines familles manquent de temps, d'espace ou même de moyens financiers pour cuisiner. Donc, dans ce contexte, l'éducation culinaire à l'école ou dans la communauté devient essentielle. Il y a des programmes comme Apprenti en action ou Chef en action, des initiatives canadiennes à travers les milieux scolaires qui ont montré qu'apprendre à cuisiner dans un cadre éducatif peut augmenter la confiance des jeunes, améliorer leurs connaissances en nutrition et les amener à adopter de meilleures habitudes alimentaires et peut-être encourager leurs parents, si ce n'est pas le cas, à faire la même chose. J'ai vérifié, Hélène, le programme Apprenti en action. Il n'y a pas de site Internet, mais il y a un Facebook. Donc, si on veut y référer, je pense qu'il y a des sources intéressantes d'informations. J'ai aussi vérifié Chef en action. Je n'ai pas trouvé Chef en action, mais j'ai trouvé Défi Chef en action, et qui est entre autres appuyé par la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. On le sait, pour lui, l'alimentation est très importante. Enfin, comme médecin, hein, c'est peut-être naturel.
Ça nous inspire confiance. C'est quoi le site?
Ça nous inspire confiance, exactement.
Alors, hein, Monique, Défi, rappelez le titre du site.
Pour Chef en action, comme je disais, je n'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé Défi Chef en action.
Associé à Laurent Duvernay-Tardif.
Associé à la Fondation de Laurent Duvernay-Tardif, en effet. Alors malheureusement, Hélène, les programmes de cuisine et d'éducation alimentaire en milieu scolaire restent marginaux et surtout tributaires de financements limités et instables, ce qui contribue à creuser encore les écarts sociaux et de santé. Parallèlement, le système alimentaire est dominé par des régimes industrialisés et des produits ultra-transformés promus par les puissantes entreprises transnationales, alors que peu de politiques publiques canadiennes visent à améliorer les systèmes alimentaires et par ricochet les habitudes alimentaires. Donc, cette double dynamique accentue les inégalités. Les jeunes issus de milieux moins favorisés disposent de moins d'occasions d'apprendre à cuisiner et de développer leur autonomie alimentaire tout en étant exposés aux produits ultra-transformés. Enfin, il ne faut pas oublier la dimension sociale et culturelle de la cuisine. Apprendre à cuisiner, c'est aussi apprendre à partager, à transmettre des traditions, à découvrir d'autres cultures et à créer une relation positive avec l'alimentation. Pour un enfant, préparer un repas avec ses proches peut être une expérience valorisante qui renforce les liens familiaux et la confiance en soi. Au-delà des chiffres, cette transformation de nos habitudes alimentaires touche aussi notre culture et nos liens sociaux. Les recettes transmises de génération en génération disparaissent parfois et avec elles une partie de notre patrimoine culinaire. Par exemple, en Ontario, il y a des écoles primaires qui ont introduit des ateliers de cuisine et ont vu leurs élèves essayer de nouveaux légumes, en parler fièrement à leur famille, montrant qu'un simple geste peut déclencher un réel changement. En conclusion, la cuisine devient une compétence citoyenne à la croisée de la santé, de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'environnement. Initier les enfants à ce savoir-faire, à la fois pratique et symbolique, c'est leur donner des outils pour se débrouiller dans un monde alimentaire complexe et en même temps contribuer à une société plus en santé et plus durable. Ça met vraiment la cuisine au centre de bien des dimensions sociétales. Alors voilà. J'espère que ça vous incitera à faire collaborer vos enfants à la cuisine et peut-être vous-même comme adulte à vouloir être attentif justement aux dimensions nutritives de l'alimentation.
Un grand merci Monique. Et les livres de recettes aussi peuvent aider, nous donner le goût de cuisiner. Et j'en parle parce que dans Le Soleil, on évoque les cercles de fermières du Québec qui célèbrent leur 110e anniversaire. Et puis à cette occasion, le cercle fait paraître aujourd'hui même un 6e livre de la série « Qu'est-ce qu'on mange ?» Je ne sais pas si vous connaissez, Monique.
Non, je ne connais pas, mais c'est fort intéressant.
Ah oui. Moi, j'ai cuisiné beaucoup, beaucoup à partir de ces livres-là. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Des recettes faciles à faire. Il y a 110 des meilleures recettes de la populaire collection qui ont été sélectionnées pour ce 6e livre. Bonifiées, adaptées au goût du jour pour cette édition anniversaire. Alors, je vous invite à vous le procurer ou au moins à aller le feuilleter. Peut-être dans le cadre du 47e Salon du livre qui se tient par chez vous.
Oui, c'est vrai, en Estrie, c'est vrai.
Oui, à partir d'aujourd'hui, justement, jusqu'au 19 octobre au Centre de foire de Sherbrooke. Et c'est sûr que quand on a des parents qui cuisinent, des modèles qui cuisinent autour de nous, c'est très inspirant. C'est comme la clé de plein de choses, comme quelqu'un qui lit à côté de nous. Moi, j'ai une mère qui cuisine depuis toujours, de A à Z, là, de la soupe au dessert, et qui n'est pas du tout, mean en bon français, vaniteuse. Elle aime partager ses trucs, ses conseils, ses astuces.
Elle devrait.
Oui. Entre autres, Mathieu a pu goûter à quelques-uns de ces plats, dont ces fameuses betteraves marinées.
Ah, mon Dieu!
On aime tellement la nourriture, puis c'est bon bien manger.
Oui, exactement. Ouais. Moi, ma sœur m'a apporté justement ce week-end le ketchup aux fruits, recette de maman, qui était la recette de sa mère.
On arrive dans une maison, puis ça sent bon. Là. Mathieu a la bouche ouverte, là, il est pâmé. Je pense qu'il en veut.
Oui, ben, en fait, c'est parce que c'est une des choses dont je m'ennuie le plus.
Ah oui, le ketchup rouge?
Oui, de ma grand-mère. Elle avait un ketchup vert aussi.
Ah oui, c'est bon,
oui,
du ketchup
vert.
C'est
vrai.
On en veut, on en veut. Merci, Monique. Monique, on continue avec l'alimentation. Vous nous parlez de fromage. Le fromage donne-t-il des cauchemars? Ça dépend duquel, j'imagine.
Alors que le repas du soir affecte le sommeil, c'est une évidence, hein? Mais le phénomène n'avait pas été vraiment étudié scientifiquement avant que des spécialistes des rêves ne s'en emparent. Alors, ils ont demandé à 1082 étudiants de l'université McEwen, qui...
Mac and cheese? Non.
Non. Alors, c'est une université qui est située à Edmonton, en Alberta, au Canada, de répondre à des questionnaires et réussit à isoler deux catégories d'aliments. Ce sont les fromages et les desserts. Alors, ces derniers que pointent la plupart des étudiants, estimant dormir moins bien en fonction de ce qu'ils mangent, au point que 5 % d'entre eux déclarent effectivement en faire des cauchemars. Bon, c'est pas beaucoup, 5 %, mais bon. En creusant, les chercheurs ont trouvé le coupable. C'est le lactose qui déclenche une intolérance chez 17 à 50 % des adultes, même s'ils ne s'en rendent pas compte, et perturbe leur sommeil. Alors, globalement, les chercheurs confirment qu'on dort mieux quand on a une alimentation équilibrée. Bon, bien ça, on le savait déjà, hein, Hélène?
Oui, on le sait depuis longtemps.
On se le répète en tout cas assez régulièrement.
Il faut se le répéter, par exemple, oui. OK. Et Mais c'est ça, moi, je me dis, moi, ce qui m'empêche... Non, parce que là, vous parlez de cauchemar, mais ce qui m'empêche de m'endormir, c'est souvent de boire un café à 8 heures le soir. Là.
Ah oui. Moi, à une certaine époque... Ben, en fait, je suis devenue intolérante à l'ail.
Ah oui?
Alors, l'ail... Aïe, 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 oui. Alors, je peux m'endormir, mais je me réveille et je suis, mon Dieu, comme fébrile. Ah, donc, je ne mange plus d'ail.
Oui. Mais c'est ça, quand on a aussi des problèmes de digestion, là, ça n'aide pas au sommeil.
Non,
et exactement. Puis, soyons cool. Est-ce qu'il y a une définition universelle de la personne cool, Monique?
Ben, il y en a une, Hélène. Extraverti, aventureux, ouvert, autonome et surtout hédoniste et puissant. Ce sont les traits d'une personne cool. Alors, de l'Australie au Chili, en passant par l'Afrique du Sud, les habitants de 12 pays, soit à peu près 6000 personnes en tout, s'accordent pour dresser ce portrait. Mais ce portrait diffère de la définition de quelqu'un de bien. Celui-ci sera décrit comme plus conformiste, mais chaleureux, consciencieux et calme. Bon, je pense qu'on peut souhaiter être quelqu'un de bien.
Bien oui, de bien.
Par rapport à cool.
Oui, mais cool, hédoniste, c'est bien aussi.
Oui,
entre autres.
Oui, tout à fait, mais puissant, je sais pas. Alors, la seule limite à la valeur universelle de ces résultats, c'est que les participants étaient connectés à Internet. Donc, la vie de ruraux isolés n'a pu être recueillie. Peut-être qu'on aurait des résultats un petit peu différents.
Peut-être. Monique, on a le temps pour votre longue brève, apprendre une langue étrangère avant même d'être née.
Oui. Ah, ben tant mieux.
C'est dans l'UDM Nouvelle que vous avez trouvé ça.
Oui, c'est ça exactement, du 6 octobre dernier. C'est une équipe de chercheuses en neuropsychologie qui viennent montrer que oui, faire entendre à un fœtus une langue étrangère quelques semaines durant la grossesse, bien, ça suffirait à moduler ses réseaux cérébraux du langage. Alors, dès les premières heures de vie, le traitement de la langue étrangère à laquelle il a été soumis suivrait le même patron que le traitement de sa langue maternelle, alors qu'une langue avec laquelle le nouveau-né n'aurait jamais été en contact sera traitée différemment dans son cerveau. Comment on est arrivé à cela? Bien, il y a 60 femmes enceintes francophones dont la grossesse se déroulait tout à fait normalement qui ont été recrutées pour participer à cette étude. On leur a fourni un lecteur MP3 qui contenait une courte histoire de la série Martine. Ah, ça nous rappelle des souvenirs. À la 35e semaine de grossesse, elles ont fait écouter à leur bébé cette histoire en français et dans une langue étrangère. On a choisi l'allemand ou l'hébreu. Vous vous demandez peut-être, Hélène, pourquoi ces langues? Ben, on cherchait des langues différentes du français sur le plan acoustique et phonologique qui pourraient être parlées par la même personne afin d'éviter un biais lié à la voix. Alors, les futures mamans ont placé les écouteurs sur leur ventre dans un environnement calme, sans musique. Ils ont répété l'expérience en moyenne 25 fois pendant les dernières semaines de leur grossesse. Une fois les bébés nés, entre les 10 et 78 premières heures de vie, les chercheuses sont venues leur faire entendre la même histoire, cette fois dans trois versions, en français, dans la langue étrangère entendue in utero et dans une autre langue étrangère jamais entendue. Pour mesurer les réactions cérébrales, ben, ils ont utilisé la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle, c'est-à-dire une technique non-invasive qui permet d'enregistrer l'oxygénation sanguine dans le cortex cérébral. C'est un peu comme si on mettait un bonnet de bain garni de sources lumineuses sur la tête du nourrisson. Lorsque les bébés entendent le français, il se passe quelque chose dans le cerveau. En fait, leur cortex temporal gauche s'active de même que d'autres régions du langage, principalement dans l'hémisphère gauche. Un schéma identique à celui observé chez l'adulte. Un patron d'activation comparable apparaît pour la langue étrangère entendue pendant la grossesse. En revanche, la langue étrangère totalement inconnue déclenche moins d'activité cérébrale. Autrement dit, les bébés de quelques heures traitent déjà différemment une langue familière et une langue étrangère. Alors, ces résultats confirment la plasticité exceptionnelle du cerveau humain avant même la naissance. Ça montre à quel point les réseaux langagiers sont malléables. Mais ça rappelle aussi leur fragilité. Parce que si un environnement positif peut avoir une influence, ben, on peut supposer qu'un environnement négatif en aurait eu aussi. Alors, pour l'instant, il est trop tôt pour dire si ces traces prénatales ont un effet durable. Les chercheuses suivent en fait les enfants au fil du temps et peut-être qu'ils auront 8 mois. Quand ils auront 4 ou 8 mois, pardon, l'effet aura disparu ou au contraire qu'il persistera. Alors en conclusion, une chose est claire. Avant même de prononcer leur premier mot, les bébés ont déjà commencé à se familiariser avec le langage bien au chaud dans l'utérus.
Oh,
wow. C'est une belle recherche, n'est-ce pas?
Très intéressant. Et on termine avec une capsule linguistique. Doit-on dire « c'est eux » ou « ce sont eux » ? Je serais portée à accorder « eux » avec un verbe au pluriel.
Ben, en fait, Hélène, les pronoms personnels, elle et eux, on va dire « c'est eux » ou « ce sont elles ». Les deux sont corrects. Je rappellerai par ailleurs qu'on devrait utiliser « ce sont » devant un substantiel pluriel. Par exemple, on va dire « ce sont des voitures » et non « c'est des voitures ». Par ailleurs, quand on parle de quantité, il faut dire « c'est ». On va dire « c'est 3 $ le kilo » et non pas « ce sont ». 3 $ le kilo. On va dire c'est nous, c'est vous, mais comme je le disais d'entrée de jeu, pour eux et elles, on aura le choix, ce sont eux, c'est elles.
Les tiennes ou sont-elles? Merci Monique. Et peut-être qu'à un moment donné, vous pourriez parler de... On entend beaucoup, je vais passer 3 jours là, ça m'a coûté 5 000, ça se dit pas. Merci pour tout, chère Monique, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.